accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Prendo la Vila Morena, terra de fraternidad.
Bonjour à tous. Cette musique a résonné toute la journée au Portugal. C'est la chanson Grandola, un hymne mythique, celui qui a accompagné il y a tout juste 40 ans, le 25 avril 1974, les militaires portugais en marche pour renverser la dictature salazariste et instaurer la démocratie. Grandola, chantée dans les rues de Lisbonne, mais de manière un peu particulière cette année. Jamais un anniversaire de la révolution des œillets n'a été aussi controversé. Avec la cure d'austérité imposée par l'Europe, l'idéal de justice sociale et de liberté a été trahi, disent les militaires, mais aussi l'ancien président socialiste, Mário Soares, un des pères de la démocratie. Pour en parler, on retrouve notre correspondante à Lisbonne, Marilyn Darcy. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Tout d'abord, on revient un peu en arrière sur cette journée du 25 avril 1974 qui a fait basculer l'histoire du Portugal.
Oui, alors peu après minuit, le 25 avril 1974, les militaires, essentiellement des sergents et des capitaines, roulent à bord de chars en direction de Lisbonne, la capitale portugaise. Venus de différentes casernes, ils veulent encercler la ville. Les chars prennent position sur le Terreiro do Passo, l'immense place centrale près du Tage à Lisbonne. Les militaires s'installent ensuite au carrefour stratégique. Le capitaine Salgueiro Maia, héros de la Révolution des œillets, prend alors le contrôle du quartier général, place do Carmo, où s'est réfugié Marcelo Caetano, le président du conseil. Celui-ci se rend à la fin de la journée. La dictature en place depuis 1933 vient de tomber. Le mouvement des capitaines a obtenu très vite dans la matinée le soutien de la population qui s'est précipitée pour acclamer les soldats. Des œillets ont été distribués aux militaires, d'où ce nom de Révolution des œillets.
Et un autre aspect symbolique de cette journée historique, c'est la chanson Grandola, qui était le signal de départ de la colonne militaire vers Lisbonne. Une chanson du poète José Afonso qui est remise au goût du jour et qui sert aujourd'hui de leitmotiv aux manifestants qui protestent contre la politique d'austérité de l'actuel gouvernement, Marilyn.
Oui, Grandola est chantée chaque fois qu'un gouvernant intervient ou lors des manifestations contre l'austérité. Avec les œillets, Grandola, c'est le symbole d'avril 74. Elle avait été interprétée, cette chanson, par son auteur, Zeca Afonso, dans une salle de spectacle de Lisbonne en mars 74. Elle avait été jugée anodine par la censure et par la PIDE, la police politique de la dictature. Pourtant, sous cette apparence très anodine, elle était en fait subversive avec cette phrase « Grandola, c'est ton peuple qui commande avant tout ». Alors un hommage à la petite ville d'Alentejo, au sud de Lisbonne, un haut lieu de la résistance à la dictature. Le public avait très très bien compris les allusions et les militaires avaient choisi Grandola comme second signe du coup d'envoi de ce coup d'état militaire. Alors début 2013, des manifestants assis tranquillement dans l'hémicycle de l'Assemblée l'ont entonné au moment même où le Premier ministre, Pedro Passos Coelho, s'apprêtait à prendre la parole. Alors Grandola, chanson très populaire, l'est plus que jamais.
Après 40 ans, la révolution des œillets est toujours aussi importante aux yeux des Portugais, mais cette année, les polémiques sont nombreuses.
La polémique la plus frappante est celle qui oppose les capitaines d'avril, les survivants de l'opération militaire d'il y a 40 ans, et l'Assemblée nationale, la présidente du Parlement, a refusé tout simplement d'accéder au souhait des capitaines de parler à la tribune de l'hémicycle à l'occasion de cet anniversaire. Alors les députés appartiennent majoritairement au parti de droite, au pouvoir, et des députés qui n'ont pas vraiment envie d'entendre de dures critiques à l'égard de ce même pouvoir. Car pour les capitaines, la coalition des sociaux-démocrates et des chrétiens-démocrates veut tout simplement signer l'acte de décès du 25 avril et de ses valeurs démocratiques. Alors les capitaines ne sont donc pas assis dans l'hémicycle en tant qu'invités, tout comme d'ailleurs Mário Soares, l'ancien président socialiste, qui leur a emboîté le pas par solidarité. On l'écoute.
Quand les militaires disent « nous ne sommes pas avec l'actuel gouvernement parce que nous ne voulons pas revenir à l'époque d'avant le 25 avril, parce que nous sommes démocrates et parce que nous avons mené la démocratie », pour moi c'est évident, je me devais d'être avec les militaires et non pas avec le gouvernement.
E por isso eu fui solidário com os militares.
A Mário Soares, qui n'a pas de mots assez durs contre le pouvoir en place et qui, à 89 ans, n'hésite pas à réclamer le départ du Premier ministre et la convocation de nouvelles élections législatives. Quant aux militaires d'avril, ils sont vus comme les responsables de l'instauration de la démocratie. Ils ont délibérément remis le pouvoir aux civils au lendemain de la révolution des œillets.
Et que représente cet anniversaire pour les Portugais? Vont-ils eux aussi dans le même sens que Soares et les capitaines?
Alors, un sondage publié cette semaine fait ressortir que 80% des Portugais estiment que les valeurs d'avril sont peu ou pas du tout respectées par le pouvoir en place. La démocratie, la liberté, la paix, la justice sociale souffrent, estiment les sondés. 80%, c'est un véritable coup près. L'obstination du gouvernement, le peu de cas qu'il fait sur la place publique des manifestations qui jalonnent la vie des Portugais, la crispation aussi au sein des forces de police et militaires, ces fonctionnaires qui disent ne plus avoir les moyens de remplir leur mission, eh bien tout ceci contribue à un malaise croissant. Alors pour les Portugais, avril simple, avril toujours, la fête de la démocratie et une mise en garde adressée au pouvoir.
Merci Marilyn Darcy pour le 40e anniversaire de la Révolution des œillets à Lisbonne. À très bientôt.
À bientôt.
J-30 pour les élections européennes. Pour mobiliser les électeurs, on le sait, chaque groupe au Parlement européen a désigné sa tête de file, celui qui sera aussi candidat pour prendre ensuite la tête de la Commission européenne. Pour le groupe du Parti de la gauche européenne, c'est le grec Alexis Tsipras du parti d'extrême gauche Syriza qui a entamé une tournée européenne qui l'a conduit en Italie. Il y est soutenu par un collectif assez hétéroclite, réuni sous la bannière Altra Europa con Tsipras, une autre Europe avec Tsipras, à Rome, Mathilde Villain.
La gauche italienne, celle qui aujourd'hui ne se reconnaît plus dans aucun parti national, a choisi de faire campagne derrière un grec, le leader de Syriza, Alexis Tsipras, candidat à la présidence de la Commission européenne. À 39 ans, Tsipras serait l'un des 10 agitateurs les plus dangereux pour l'Europe, selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, et pour cause, son programme pour une autre Europe a en effet de quoi faire frémir les partisans de la rigueur et de l'immobilisme. Tsipras veut un renversement de la politique économique libérale, un nouveau modèle social européen, une lutte sans merci contre la corruption, l'ouverture des frontières extérieures de l'Europe et une politique environnementale plus efficace. En Grèce, Alexis Tsipras caracole dans les sondages et la gauche de la gauche italienne, orpheline de leader et en panne d'énergie, a donc choisi de se ranger derrière lui. Sur les listes de l'Altra Europa per Tsipras, on trouve donc de grands noms, comme celui d'Andrea Camilleri, le célèbre écrivain sicilien, ou de Barbara Spinelli, qui n'est autre que la fille d'Altiero Spinelli, père fondateur de l'Europe. Mais le projet manque de clarté, un peu comme les conférences de presse d'Alexis Tsipras qui ne parle pas un mot d'italien. À Rome d'abord, puis à Palerme, certes ces meetings ont suscité un grand enthousiasme, mais l'alternative révolutionnaire, je cite, proposée par la liste Tsipras, peine aujourd'hui à dépasser les 4% d'intention de vote.
La liberté de la presse va mal, très mal. En Roumanie, cette année, Reporters sans frontières a déclassé de 3 places le pays qui se trouve désormais en 45e position. Et ce sont les journalistes qui font les premiers les frais de cette dégringolade. Censure, pression, menaces et lynchage médiatique sont leur lot quotidien. La liberté de ton n'est pas bien vue partout. C'est le reportage à Bucarest de Julia Burke.
En Roumanie, il est de plus en plus difficile d'être journaliste. Dernièrement, une journaliste a été victime d'un lynchage médiatique. Lors d'un plateau télévisé, elle a été ridiculisée et humiliée par le présentateur. Cet événement a provoqué une vague de solidarité de toute la profession. Plus de 1300 journalistes ont signé un manifeste afin d'interpeller les autorités roumaines quant à leurs conditions de travail. D'autres journalistes politiques ont subi eux aussi des préjudices. Récemment, plusieurs d'entre eux ont reçu des menaces par téléphone en lien direct avec les sujets sur lesquels ils travaillaient. Dans le bureau de l'ONG Freedom House, un ancien journaliste et membre du Conseil national de l'audiovisuel répertorie les menaces. Gelou Trandafir.
C'est une situation inédite. Je pense que c'est à partir du moment où la justice a commencé à démanteler des réseaux de corruption politique et de crimes organisés que la situation a empiré pour les journalistes. Des politiciens détiennent ou contrôlent des groupes de presse. Lorsque leurs affaires sont menacées, ils ont tous les moyens pour discréditer les journalistes, les magistrats et en fait tous ceux qui s'opposent à eux.
Quand financièrement les rédactions vont mal, il est difficile pour les journalistes de résister à ces pressions. Car depuis le début de la crise, les effets au sein des journaux ont été dévastateurs. Diminution des salaires, licenciements massifs et fermeture de certains titres. Alors que beaucoup de journalistes étaient salariés permanents, le statut de collaborateur externe est devenu la règle, amenant son lot de précarité. Mirona Monteanu connaît bien la précarité. Elle en a subi les conséquences au sein de son ancienne rédaction, le Journal National. En septembre dernier, cette journaliste de 44 ans a été mise à la porte pour avoir publié sur Facebook deux éditoriaux que sa rédaction avait refusés. Ils concernaient le projet minier de Roșia Montana, un sujet très sensible et polémique en Roumanie.
J'ai reçu un mail de la rédaction me disant que notre collaboration prenait fin, car en postant ces deux textes sur Facebook, je laissais entendre qu'il y avait eu de la censure au sein du journal, ce qui était inacceptable et desservait les intérêts de la publication. D'une certaine manière, je m'attendais à ce que ça arrive. 3 ans plus tôt, j'avais déjà écrit un édito sur Roșia Montana. Il avait été publié, mais on m'avait prévenu que ce sujet n'était pas opportun, que la position du journal était différente de la mienne et que ce serait bien d'éviter d'en parler.
En fait, il a été démontré que la Gold Corporation a arrosé les médias de sommes d'argent considérables, notamment par le biais de publicités, pour faire taire les critiques à l'encontre du projet minier. Mais pour Mirona Monteanu, ce n'est pas la compagnie canadienne qui est la principale responsable.
C'est la crise économique qui est responsable de cette situation. Les journaux ont dû faire d'énormes compromis. Ils sont devenus vulnérables face aux lobbies et aux annonceurs. D'une certaine manière, je ne peux pas juger les rédactions. C'est difficile de devoir choisir entre payer les salariés en faisant des entorses à la déontologie ou être honnête à 100% au niveau professionnel tout en sacrifiant des dizaines d'employés.
Mirona Monteanu a réussi assez vite à retrouver un travail au sein de la télévision publique. Mais tous n'ont pas eu cette chance, car beaucoup de journalistes roumains ont malheureusement dû changer de métier.
C'est une querelle qui passionne les historiens britanniques. Les restes de squelettes retrouvés sous un parking à Leicester sont-ils bien ceux du roi Richard III ? Finalement, peut-être pas. Deux éminents spécialistes estiment qu'un doute persiste, malgré beaucoup d'éléments concordants. Retour sur un véritable feuilleton, un soap opera, comme disent les Britanniques, signé Marie Billon.
Si ce n'est pas vraiment son squelette, il lui ressemble. Une colonne vertébrale tordue, des blessures de guerre, un enterrement à la va-vite, sans cercueil, des tests ADN et au carbone qui prouvent ses liens de parenté et la date approximative de sa mort, tout concorde pour faire croire que les ossements retrouvés à Leicester sont bien ceux du roi Richard III, au-delà de tout doute raisonnable. Mais voilà, des doutes raisonnables, Martin Biddle de l'université d'Oxford et Michael Hicks de l'université de Winchester, ils en ont. D'abord, la datation des ossements est approximative, elle peut varier de 80 ans. L'ADN aussi n'est pas une preuve suffisante. La grand-mère de Richard III a eu 16 enfants, les ossements pourraient donc être ceux d'un des cousins du roi. Ils ont d'ailleurs été nombreux à mourir au combat pendant la guerre des Deux Roses, qui a opposé la famille d'York, celle de Richard III et les Lancaster. Les blessures ne sont donc pas une preuve. Le lieu de l'enterrement non plus, le roi n'est pas le seul à être mort à la bataille de Bosworth. Un de ses cousins a pu y mourir aussi et être inhumé dans la ville la plus proche, Leicester. Quant à la colonne vertébrale tordue, à part chez Shakespeare, il n'y a aucune preuve que le roi était bossu. Bref, les historiens demandent à ce que l'enquête continue. Grande déception pour beaucoup, le pays était tellement persuadé d'avoir retrouvé Richard III que la justice est en ce moment même en train de décider où enterrer ses ossements. La bataille fait rage entre les villes de Leicester et York, mais si, finalement, ce n'est pas Richard III, les villes risquent de se passer les os comme une patate chaude.
Écoute ce disque. Écoute ce disque.
Et pour notre chronique musique, on retrouve Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Vous nous emmenez en Grèce avec un groupe multicarte.
Eh oui, et on va faire un peu plus de bruit que d'habitude aujourd'hui avec ce groupe grec, The Kalas. Comme la cantatrice qui était tout aussi grecque, mais c'est sans doute son seul point commun avec ce quatuor énervé emmené depuis 2004 par deux frères, Lakis et Haris Yonas. La formule est simple comme en bon vieux temps du punk. Guitare, basse et batterie sont mobilisés pour des chansons brutes et efficaces. Sans doute moins original que la démarche du groupe, puisque The Kalas donne aussi dans les arts visuels, performance, installation, chorégraphie ou film. Les Grecs sont sur tous les fronts, ils sont à l'aise sur scène comme dans les galeries d'art contemporain. Leur dernier album est joliment titré Am I Vertical ? C'est aussi le titre de la chanson que je vous propose.
Vertical du groupe The Kalas. Merci Vincent Théval, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine avec un peu plus de douceur.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur Facebook. On se retrouve dès lundi.